En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Marie-Louise Labat, directeur de recherche au CNRS, prononçait une communication le 8 octobre 2007 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème « Cellules souches, du mythe à la réalité ». Les cellules souches ont été découvertes il y a un peu moins de 10 ans. Depuis, la science a progressé. Retrouvons Marie-Louise Labat en grande salle des séances faire le point sur ce sujet.
Tout d'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que je remercie Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques de me donner l'occasion de parler aujourd'hui devant vous sur le thème « Cellules souches, du mythe à la réalité ». Le thème des cellules souches n'a cessé de hanter l'humanité. Vous voyez ici une représentation de la déesse Eos et de son amoureux Tithonos, deux héros de la mythologie grecque. Tithonos n'est qu'un simple mortel, et la déesse est tombée amoureuse de lui. Aussi, elle demande à Zeus de concéder à Tithonos la vie éternelle. Mais hélas, elle a oublié dans sa prière de demander aussi pour Tithonos la jeunesse éternelle. Aussi, le pauvre Tithonos connut-il une décrépitude sans fin. Alors aujourd'hui, nous espérons faire mieux, et à défaut de l'immortalité, nous voudrions au moins vieillir sans les troubles de la sénescence, être réparés au mieux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la médecine régénératrice par la thérapie cellulaire en utilisant des cellules souches. Alors, les cellules souches sont des cellules particulières qui, contrairement à l'ensemble des cellules de notre organisme, qui sont des cellules spécialisées et qui sont stables, il n'est pas question qu'une cellule de peau devienne une cellule du foie, par exemple, nous serions très malades. Mais ces cellules souches, elles, ont la propriété de rester indifférenciées et de se diviser pour donner naissance à d'autres cellules souches, mais aussi elles peuvent se métamorphoser en cellules spécialisées en réponse à des signaux précis. Ce sont donc des cellules en quelque sorte instables. En novembre 1998, une publication par l'America Thompson a eu un retentissement à l'échelon planétaire. Cette équipe rapportait l'extraction, à partir de l'embryon humain précoce, de cellules souches capables de se métamorphoser en tous les types de tissus qui composent l'organisme. Ce travail était financé par la compagnie privée Geron. Selon les auteurs, ces cellules souches devaient pouvoir réparer nos tissus défaillants, car le grand mot à notre époque, c'est « on veut être réparé ». Auditionné un mois plus tard, donc en décembre 1998 par le Sénat des États-Unis, Thompson confirmait que ces cellules souches devaient permettre de guérir en particulier toutes les maladies qui nous font le plus peur parce qu'on n'a pas de traitement, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète juvénile, les lésions de la moelle épinière. Cela étant, l'extraction de ces cellules souches embryonnaires implique la destruction d'un embryon humain. Un débat d'ordre éthique et politique tout aussi planétaire, s'est immédiatement instauré. La transgression est évidente. A-t-on le droit pour sauver des vies de détruire des embryons humains? Actuellement, 9 ans donc après la publication initiale de Thompson, 2 questions principales se posent. La première, les cellules souches embryonnaires humaines ont-elles tenu leurs promesses? Et deuxièmement, l'embryon est-il encore la seule source de cellules capable de se différencier en tous les types tissulaires de l'organisme et donc d'être aussi d'excellents outils pour la thérapie cellulaire et la médecine régénératrice? Eh bien, il semble bien qu'à ces 2 questions, aujourd'hui, la réponse soit non. Alors, sous le nom de cellules souches, plusieurs entités sont regroupées dont les potentialités de différenciation sont plus ou moins restreintes. Différents types de cellules souches sont décrites au cours de la vie embryonnaire et chez l'adulte. Et nous allons voir comment nos conceptions ont évolué au cours de la décennie passée. Voici l'état des connaissances en 1998. Tout commence donc par la création de l'œuf, le zygote, résultat de la fusion de ces cellules singulières que sont l'ovule et le spermatozoïde. Alors on sait très bien qu'au bout du développement, c'est un individu complet qui va naître à partir de cette seule cellule, le zygote. On dit que cette cellule, le zygote, est une cellule totipotente, c'est-à-dire capable de fabriquer un être complet. Cette qualité de totipotence est curieusement conservée au cours des divisions qui vont suivre jusqu'au stade 6 à 8 cellules. 8 cellules chez la souris, c'est plus facile de faire l'expérience. On ne sait pas trop pour les humains si c'est 6 ou 8. Mais là encore, si l'on extrait une de ces cellules à ce stade où il y en a 6 à 8, eh bien, si on l'implante dans un utérus préparé, et cela a été fait chez la souris, eh bien, on obtient un individu complet, sans que pour autant les cellules restantes soient en rien gênées dans leur développement. On aura un second individu complet, c'est-à-dire qu'en prenant une seule cellule à ce stade, on crée un jumeau. Donc, à ce stade, les cellules restent totipotentes. En revanche, dès que l'on arrive au stade 4-5 jours, on arrive à ce qu'on appelle le stade blastocyste. Nous avons alors une sorte de petite boule qui présente un liquide en son centre et dont les cellules souches qui vont faire l'organisme sont localisées dans ce petit amas que l'on voit sur la gauche. Les cellules du pourtour vont donner les tissus nourriciers. À partir de ce stade, pour faire un individu complet, il faut qu'il y ait l'ensemble de ces cellules souches. Il y a environ 100 à 150 cellules qui sont là. Ces 100 à 150 cellules prises ensemble vont faire un individu complet. Mais chaque cellule séparément est capable de donner naissance à tous les tissus qui vont composer cet organisme complet. On dit que ces cellules souches sont devenues pluripotentes. Mais ce que l'on pensait en 1998, c'est que toute la pluripotence, cette qualité extraordinaire, était perdue après ce stade blastocyste. C'est pourquoi le travail de Thomson, dont je parlais tout à l'heure, a utilisé l'embryon à ce stade blastocyste. Après, nous passons au stade gastrulation. Là, nous avons, classiquement décrit par l'embryologie, trois feuillets qui se distinguent. Et à partir de chacun de ces trois feuillets, ce sont des groupes de tissus qui vont être formés, des ensembles de tissus, mais plus tous les tissus. On dit alors que les cellules souches sont devenues multipotentes. Pour localiser un petit peu les choses et voir comment cela se passe, vous avez l'ovule qui est pondu par la trompe sur la gauche, et c'est là qu'il rencontre le spermatozoïde. Nous avons l'œuf qui va ensuite migrer vers l'utérus. Le stade blastocyste, ce stade si important où sont extraites les cellules souches embryonnaires, c'est le stade dit pré-implantatoire. Cela étant, bien entendu, quand on fait l'expérience de Thomson, on ne prend pas les cellules, on ne prend pas l'embryon dans le corps d'une femme. Ce sont des expériences in vitro, résultat de la fécondation in vitro, c'est-à-dire en culture, au laboratoire, à l'extérieur du corps. Donc reprenons, après la gastrulation, nous n'avons plus que des cellules souches multipotentes et le potentiel de ces cellules, tout au cours du développement de la formation des organes, va encore décroître. On va voir des cellules multipotentes, mais aussi des cellules quadripotentes, tripotentes, etc., même unipotentes, cela jusqu'à la croissance. Cela étant, déjà en 98, on connaissait malgré tout chez l'adulte certaines cellules souches dans des tissus à renouvellement rapide ou permanent. Le sang, et là, les transfusions de moelle et de sang sont utilisées en thérapie depuis des décennies, mais aussi l'os. On savait qu'il y avait des cellules souches dans l'os, dans l'épiderme de la peau, dans la paroi intestinale, un renouvellement très rapide. On savait aussi que le foie en contenait. C'est le mythe de Prométhée. Mais on pensait à cette époque que ces cellules souches présentes chez l'adulte étaient restreintes dans leur capacité de différenciation. Et il était admis qu'elles dérivaient du même feuillet embryonnaire, ces trois feuillets qui se forment à la gastrulation, dont nous avons parlé, il était admis qu'elles dérivaient du même feuillet embryonnaire que le tissu d'où elles étaient extraites. Quant au cerveau, le dogme voulait, depuis les travaux de Ramon y Cajal, qu'il n'y eût aucune possibilité de régénération. Aujourd'hui, qu'en est-il? On sait maintenant qu'il faut distinguer entre les cellules souches impliquées dans la formation des organes, et là, rien n'a changé, les lois de l'embryologie n'ont pas bougé, mais on sait maintenant qu'il existe aussi des cellules souches de réserve, dites adultes, qui retiennent les caractéristiques de celles de l'embryon précoce au stade blastocyste, c'est-à-dire la pluripotence, la capacité de donner naissance à tous les types tissulaires de l'organisme, et que ces cellules souches de réserve persistent pendant toute la vie de l'individu. Donc, à partir du stade blastocyste, à partir de ces cellules pluripotentes, il y a donc la formation et la croissance des organes d'une part, avec perte de la pluripotence au moment de la gastrulation, mais aussi mise en réserve d'un petit pool de cellules pluripotentes qui vont persister pendant toute la vie de l'individu. Et vous avez dû entendre parler, souvent on oppose dans la presse les cellules souches embryonnaires aux cellules souches dites adultes, ce sont celles-là. Et on les a jusqu'à la fin de notre vie. Les cellules souches pluripotentes présentes chez l'adulte sont encore appelées cellules souches adultes. Ce n'est pas parce que la cellule souche en tant que telle est adulte. Au contraire, elles ont gardé des caractéristiques de cellules embryonnaires. Mais on les appelle ainsi parce qu'elles persistent chez l'adulte. Et ça permet de les distinguer dans le langage, disons, devenu courant maintenant, car on en parle tellement, ça permet de les distinguer des cellules souches embryonnaires extraites au stade blastocyste et qu'on appelle encore cellules ES par un curieux anglicisme, ES étant pour embryonic stem cells. On les appelle aussi cellules souches d'organes pour les distinguer des cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire les cellules souches qui forment les globules du sang. Cellules souches adultes et cellules souches embryonnaires partagent des similitudes, mais il y a des différences majeures que nous allons examiner à présent. Alors, que sont exactement les cellules souches embryonnaires proposées pour nous réparer? Elles sont donc, comme nous l'avons vu, extraites de l'embryon au stade blastocyste, de cette masse interne, qui donne donc les cellules qui forment différents tissus, cellules qui sont dérivées du mésoderme, de l'ectoderme et de l'endoderme, les trois feuillets embryonnaires qui apparaissent, qui se forment au moment de la gastrulation. Mais cela étant, les cellules souches embryonnaires proposées pour réparer nos tissus, si elles sont bien extraites de la masse interne de l'embryon au stade blastocyste, ne sont pas présentes telles quelles dans l'embryon. Elles résultent de manipulations de laboratoire qui les transforment en lignées. Ces lignées de cellules souches sont encore appelées cellules ES, comme nous l'avons vu. Alors voici un petit peu la méthode. L'image est meilleure sur les côtés. Donc on extrait la masse interne du blastocyste, on la met en culture, dans des petites boîtes, et parfois, une de ces cellules, ou plusieurs, se mettent à proliférer. Et alors, quand elles commencent à proliférer, elles prolifèrent à l'infini. C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule, on en a des milliards, des milliers. Alors pour le laboratoire chez qui ça se produit, c'est évidemment la joie, parce que ces cellules peuvent être, à ce moment-là, distribuées dans des petits flacons, congelées, et curieusement, elles ne semblent pas souffrir du froid. On peut ensuite les décongeler, et elles reprennent leur croissance et leur multiplication sans avoir, semble-t-il, de mauvais souvenirs de ce passage au grand froid. En fait, la technique d'isolement des cellules souches à partir de l'embryon précoce était connue depuis 1981 chez la souris. Mais les embryons humains, eux, ne sont devenus disponibles pour l'expérimentation qu'avec le développement des techniques de fécondation in vitro et du diagnostic préimplantatoire, technique où on assiste à un transfert de technologie de l'art vétérinaire à la médecine. En effet, lors de la fécondation in vitro, la femme subit une stimulation hormonale importante, ce qui fait qu'au lieu d'émettre un seul ovule, comme c'est le cas habituellement, eh bien, elle en émet une dizaine. Ces ovules sont prélevés, mis en culture, fécondés par des spermatozoïdes, et l'embryon se développe. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Assez curieusement, il n'y a pas de souci. Et le diagnostic préimplantatoire permet de tester, en cas de maladie génétique grave, c'est autorisé dans notre pays, à partir d'une seule cellule extraite de cet embryon, on peut tester si l'embryon est sain ou non. Ça permet de transplanter dans l'utérus de la femme les embryons sains, et puis il reste toujours des embryons, parce qu'il y en a une dizaine, et même si on en implante deux ou trois, il en reste. Que fait-on ? On les congèle. Si les parents veulent accroître leur famille, on les décongèle, et souvent, il en reste encore. Alors, ce sont ces embryons, que l'on appelle des embryons surnuméraires, sans projet parental, qui sont utilisés et qui ont été utilisés pour la recherche par Thomson lorsqu'il a fait cette première extraction à partir de l'embryon humain. D'ailleurs, Thomson précise dans sa publication qu'il a utilisé pour ses travaux des embryons surnuméraires sans projet parental avec l'accord éclairé des parents. Ces lignées de cellules souches humaines créées en vue du traitement futur des maladies sont cultivées sur des fibroblastes de souris en présence de facteurs nourriciers d'origine animale. Cela peut donc exposer les patients à des virus animaux que le système immunitaire des patients ne pourra pas combattre, ainsi que l'a fait remarquer le comité d'éthique médicale des USA dès novembre 2003. De plus, en culture à long terme, le génome de ces cellules, de ces lignées, se révèle instable. Les cellules qui composent ces lignées prolifèrent à l'infini sous forme indifférenciée. Transplantées dans un organisme constitué, eh bien elles font ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire proliférer à l'infini, et elles forment des tumeurs cancéreuses. Il n'est donc pas envisageable de les transplanter qu'après avoir arrêté leur prolifération en induisant leur différenciation. Mais il est difficile d'induire d'une façon univoque la différenciation des cellules souches embryonnaires. À l'heure actuelle, aucun traitement de maladie humaine par les cellules souches embryonnaires n'a été rapporté. Voyons maintenant les cellules souches adultes. Tandis que les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines se poursuivaient, les cellules souches adultes pluripotentes étaient, comme nous l'avons vu précédemment, mises en évidence dans tous les organes, y compris le pancréas et le cerveau. Évidemment, enfouies dans les organes, elles sont difficiles d'accès pour l'expérimentation. Mais la nature s'est en quelque sorte montrée généreuse pour les chercheurs, car elles ont aussi été mises en évidence dans le sang, la moelle osseuse et même le sang du cordon ombilical, où elles sont facilement accessibles. Ces cellules souches pluripotentes sont mises en réserve dès les stades précoces du développement. Comme je l'ai dit, on les appelle adultes, mais elles n'apparaissent pas spontanément chez l'adulte. Elles sont bien évidemment présentes dès le début. Elles sont là, présentes dès les stades précoces du développement, en vue de la réparation ultérieure des tissus. Et elles persistent pendant toute la vie. Elles sont présentes en petit nombre dans l'organisme. Elles sont normalement quiescentes, jusqu'à ce que, en réponse à des signaux précis, elles prolifèrent et se différencient pour assurer le maintien de l'intégrité de l'organisme. Ça se passe à tout moment de notre vie, on ne s'en rend pas compte quand tout va bien. Leur rôle principal semble donc être spécifiquement la réparation tissulaire, c'est-à-dire le remplacement des cellules vieillies ou endommagées. La réparation tissulaire est une réaction qui doit être initiée, se développer et surtout savoir se terminer. Cela signifie que, dans un organisme normal, ces cellules sont étroitement contrôlées. De nombreux mécanismes interviennent vraisemblablement dans ce contrôle. L'un d'eux a été mis en évidence par mon équipe lors de l'étude des cellules souches adultes présentes dans le sang. Les cellules souches adultes présentes dans le sang sont en équilibre avec les cellules souches enfouies au cœur des tissus. Il y a là une cellule dont je reparlerai, le péricyte, qui semble être un précurseur des cellules spécialisées, un intermédiaire en quelque sorte entre les cellules souches d'organes pluripotentes et la cellule spécialisée, mais il y a certainement d'autres intermédiaires. Alors, ces cellules présentes dans le sang, cellules souches que nous appelons cellules souches d'organes, pour les différencier des cellules souches hématopoïétiques qui forment les globules sanguins, c'est une cellule souche différente, elles se présentent en culture sous l'aspect d'un monocyte. Un monocyte, c'est en fait un banal globule blanc. Mais elles n'ont du monocyte que l'allure. Elles en ont certains marqueurs aussi, si on va plus loin que l'aspect morphologique, elles ont des caractéristiques communes, certes, mais elles ont aussi bien d'autres caractéristiques. D'une part, ce sont des cellules très résistantes qui vivent dans un milieu sans ajout de facteurs spécifiques pour induire leur croissance. Elles semblent même supporter des chocs osmotiques, ce que ne font pas, bien entendu, les cellules, les monocytes. D'autre part, elles expriment des marqueurs qu'on ne trouve pas chez le globule blanc, en particulier des marqueurs neuronaux. Nous l'avons montré en 2000 et nous l'avons montré plus récemment qu'elles expriment aussi un facteur de transcription spécifique des cellules dérivées de la crête neurale. Et monsieur le Président vient de parler du livre de Madame Le Douarin qui a eu l'honneur de montrer, grâce à une technique élégante de transplantation de cellules de la crête neurale de la caille vers le poulet, où les noyaux de la caille sont différents des noyaux du poulet, donc elle a pu suivre la migration de ces cellules de la crête neurale dans différents organes. Et curieusement, contrairement à ce qui se passe au moment de la gastrulation, où il y a une séparation très nette entre les cellules qui vont donner différents types de tissus, là il y a passage, les cellules de la crête neurale vont pouvoir donner aussi bien de l'os, qui en principe est formé par le mésoderme, que des cellules neurales, bien évidemment, et d'autres cellules encore, comme le muscle lisse. C'est pour ça que nous avons pensé, d'ailleurs, à rechercher une origine crête neurale possible de ces cellules, et nous l'avons, en fait, mise en évidence, sûrement par ce marqueur de transcription très spécifique. En culture in vitro, ces cellules souches d'aspect monocytoïde adhèrent au support. Elles se métamorphosent alors spontanément en cellules de phénotypes variés, parmi lesquelles des néofibroblastes qui ont d'abord attiré notre attention parce que nous étudions les maladies osseuses à l'époque. Mais in vitro, la durée de vie de ces cellules adhérentes est courte. Elles activent une population particulière de lymphocytes T. Alors les lymphocytes T sont une autre catégorie de globules blancs. Ces lymphocytes T, nous les avons appelés lymphocytes T phagiques en raison de leur mode d'action. Ces lymphocytes T phagiques viennent adhérer aux cellules souches, puis y pénètrent. C'est un processus dynamique, car les lymphocytes, nous allons le voir dans le petit film qui va suivre, circulent à l'intérieur des cellules souches jusqu'à la complète destruction de ces dernières. C'est un des mécanismes de contrôle. In vitro, il est clair, il n'y a aucun but de réparation. Donc elles n'ont rien à faire. Voilà ces lymphocytes T, ce sont ces petites boules que l'on voit et qui adhèrent à la cellule souche qui est en dessous. Ici, plus bas, vous avez la pénétration du lymphocyte dans la cellule souche, c'est très grandi, c'est de la microscopie électronique. Sur les images du côté, on voit beaucoup mieux. On les voit ensuite à l'intérieur et on les voit surtout à la fin, quand les lymphocytes ont achevé leur œuvre de destruction de la cellule souche, dont on ne voit plus ici que des filaments qui forment ce que l'on appelle le cytosquelette de la cellule. Donc nous allons voir ce petit film qui va vous montrer comment la cellule souche présente dans le sang, toutes les images que vous allez voir viennent du sang, comment cette cellule souche d'organe présente sous forme ronde monocytoïde, vous allez la voir se transformer en cellule allongée fibroblastoïde. Vous voyez, on ne voit plus les cellules rondes, mais maintenant elles sont remplacées par des cellules allongées. En l'absence de lymphocytes dans le milieu, ces cellules souches conservent leur phénotype fibroblastoïde. Vous voyez qu'elles sont animées de mouvements oscillants, mais qu'il n'y a pas de migration dans le champ. En revanche, vous allez voir que les lymphocytes ont un certain tropisme pour ces néofibroblastes. On les voit, les petites cellules qui sont agitées d'un mouvement rapide sont les lymphocytes en question, et les grosses cellules sont les cellules souches. Évidemment, le mouvement est très accéléré. Pour chaque petite séquence, c'est environ 2 jours. Alors, quand les lymphocytes sont en nombre suffisant, ils ont une action sur la plasticité et la mobilité de la cellule souche. On peut en suivre une ici, par exemple. Vous voyez que du coup, en présence de quantités suffisantes de lymphocytes, ces petites cellules qui grouillent tout autour, elles acquièrent la capacité de migrer dans le champ. Elles montrent aussi une plasticité beaucoup plus grande. Alors cela a peut-être quelque chose à voir avec le défaut de migration des fibroblastes qui sont décrits dans le vieillissement. Or, on sait que lors du vieillissement, il y a ce que l'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire la sénescence du système immunitaire. Cela pourrait expliquer pourquoi, lors du vieillissement, eh bien, les fibroblastes migrent moins bien. Alors, non seulement les lymphocytes en question ont un tropisme pour les cellules souches, mais ils pénètrent à l'intérieur. On les voit ici. Ça, c'est la cellule souche qui s'est adhérée et a commencé à se métamorphoser, à amorcer sa différenciation. Et on voit les lymphocytes qui circulent donc. Ça, c'est tout à fait particulier. C'est pas du tout quelque chose de classique, disons. Et nous allons voir maintenant que lorsque les lymphocytes sont en nombre suffisant, qu'ils ont pénétré. Alors ici, vous voyez, les lymphocytes sont autour de la cellule souche. Ils sont à l'intérieur. Ils circulent. Il faut me croire sur parole. La cellule souche est en dessous. On le verra à la fin. Donc une petite séquence environ 2 jours. Là, on a dû recadrer parce que sous l'action de ces lymphocytes, la cellule était sortie du champ. Et vous allez voir, c'est bientôt la fin, la destruction de la cellule souche, voilà, par les lymphocytes. Il ne semble pas, d'ailleurs, les lymphocytes avoir beaucoup souffert de la chose, et ils semblent prêts pour de nouvelles batailles. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, en ce sens que seules les cellules souches normales sont détruites par ces lymphocytes T que nous avons appelés phagiques, lorsqu'elles se différencient hors d'un but précis de réparation, in vitro en culture, ou in vivo lorsque le processus de cicatrisation est achevé. Autrement dit, ce sont des cellules qui doivent se montrer quand on a besoin d'elles, et ne pas se montrer quand on n'a pas besoin d'elles. C'est une exception bénéfique au principe de tolérance au soi. En principe, le système immunitaire, lorsqu'on est normal, n'attaque pas nos cellules. Mais là, c'est une exception bénéfique destinée à éviter l'accumulation pathologique de tissus qui se serait formée à partir de ces cellules souches. Et ce contrôle est absent lorsque les cellules cultivées proviennent de patients atteints de fibrose ou de cancer, par exemple, comme le chondrosarcome que j'ai étudié. Dans ces cas de fibrose ou de prolifération maligne telle que le chondrosarcome, les cellules souches d'organes extraites du sang présentent 2 différences majeures par rapport aux cellules souches normales. 1, on assiste à la prolifération à l'infini d'un ou plusieurs clones de ces cellules pathologiques. Deuxièmement, ces clones, lorsqu'ils amorcent leur différenciation, échappent au contrôle par les lymphocytes T phagiques. En conséquence, eh bien, un tissu s'accumule, qui curieusement d'ailleurs évoque les lésions du patient. In vivo, le contrôle par les lymphocytes T, d'après si on interprète ces résultats in vivo, doit prendre place vraisemblablement à l'interface capillaire-tissu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la niche vasculaire des cellules souches adultes serait à cette interface capillaire-tissu. Le nom de niche, qui n'a d'ailleurs pas été traduit par les anglo-saxons, on parle de « the niche », eh bien la niche, c'est cet endroit où la cellule souche est indifférenciée, mais est capable de répondre à des signaux qui vont la faire proliférer et lui faire quitter sa niche pour aller se différencier en cellules spécialisées. Et comme je le disais tout à l'heure, le péricyte, qui est une cellule de soutien, enfin, elle était considérée comme une simple cellule de soutien des cellules endothéliales qui forment la paroi du capillaire, eh bien, ce péricyte semble bien être une cellule précurseur vers la cellule intermédiaire entre la cellule souche et la cellule spécialisée. Les lois de transplantation, si l'on réfléchit à ce que veulent dire ces expériences, c'est que les lois de transplantation des cellules souches adultes organes et des cellules ES, autrement dit des cellules embryonnaires extraites du blastocyte, les lois de transplantation de ces cellules souches diffèrent de celles des cellules spécialisées. Des études récentes par d'autres auteurs montrent que les cellules souches adultes, contrairement aux cellules spécialisées, ne sont pas rejetées lorsqu'elles sont transplantées chez des receveurs incompatibles du point de vue tissulaire. On dit qu'elles sont invisibles au système immunitaire du receveur. Alors, il ne faudrait pas en déduire hâtivement que l'on peut, pour cette raison, transplanter impunément les cellules de Pierre vers Paul. Cela signifie simplement que les lois de transplantation diffèrent de celles des cellules spécialisées. En fait, les cellules souches transplantées doivent être du même type tissulaire de leur donneur, non pas pour éviter le rejet, elles ne sont pas rejetées, elles sont invisibles au système immunitaire, mais elles doivent être contrôlées, et pour permettre le contrôle, elles doivent être du même type tissulaire. Cette notion est d'autant plus importante que des travaux récents indiquent que certains cancers, comme le cancer gastrique, résulte de l'accumulation incontrôlée de cellules souches adultes en provenance du sang. L'inflammation chronique induite par la bactérie Helicobacter pylori, que l'on savait déjà depuis plusieurs années responsable de l'ulcère gastrique, en serait la cause. C'est-à-dire que l'ulcère crée, une inflammation se crée autour de l'ulcère qui attire ces cellules souches en provenance du sang. Probablement, le système immunitaire se trouve débordé, ou bien il y a une baisse du système immunitaire qui l'accompagne. Toujours est-il qu'apparemment, lorsque se forme le cancer, les cellules souches échappent au contrôle. Alors, contrairement aux cellules souches adultes, les cellules souches embryonnaires, extraites d'embryons de 5 jours, n'ont pas pu acquérir la capacité à être contrôlées par un organisme constitué. En effet, cette capacité s'acquiert au cours du développement du système immunitaire. Certes, les cellules souches adultes et les cellules souches embryonnaires partagent des qualités communes. En particulier, elles ont toutes les deux, même les cellules souches adultes, gardé des caractéristiques de celles de l'embryon précoce. Mais lorsque l'on prend des cellules souches dans un embryon de 5 jours, elles n'ont pas vécu tout le développement. Or, pendant le développement, que font les cellules? Elles se parlent les unes aux autres. Elles apprennent à cohabiter. Elles apprennent à répondre à des signaux, et en particulier aux signaux de contrôle qui peuvent être émis par le système immunitaire. Donc, cette capacité qui s'acquiert au cours du développement du système immunitaire, évidemment, les cellules extraites d'un organisme, d'un embryon de 5 jours, n'ont pas pu les acquérir. Transplantées dans un organisme constitué, même compatible, les cellules embryonnaires forment donc des tumeurs. Elles prolifèrent, c'est ça qu'elles savent faire, elles sont faites pour ça, car à partir de ces 150 cellules présentes dans le blastocyste, eh bien, nous aurons des milliards de cellules dans l'embryon adulte, dans l'organisme adulte. Dans le cas des cellules souches embryonnaires, même dans le cas de transplantation allogénique, c'est-à-dire entre individus pour des tissus incompatibles ou xénogéniques, là on passe d'une espèce à l'autre, eh bien, ces cellules souches embryonnaires sont elles aussi invisibles au système immunitaire de l'hôte. Elles ne sont pas rejetées. Il y a quelques travaux récents qui le montrent, mais en fait, il y a eu peu de travaux malgré tout là-dessus. Or, le clonage thérapeutique a été proposé dès 1998 pour parer au rejet, supposé inévitable. On n'avait pas fait d'expérience, mais on a pensé que ça allait se passer comme ça. Donc, le clonage thérapeutique a été proposé pour parer au rejet supposé inévitable des cellules souches provenant des embryons surnuméraires et donc transplantées chez un receveur incompatible du point de vue tissulaire. On considérait comme acquis que les cellules souches embryonnaires suivaient les mêmes lois de transplantation que les cellules spécialisées. Or, on s'aperçoit maintenant que ça ne semble pas du tout être le cas. Le clonage thérapeutique a été proposé en 98. C'était le moment où on parlait beaucoup de Dolly, qui avait été présentée au public en 97. Dolly, la première brebis clonée. Alors, on rappelle un petit peu ce qu'est le clonage. Nous avons ici un ovocyte, c'est-à-dire un ovule émis par une femme, au bon moment, dont on enlève le noyau au moyen d'une pipette. Et le noyau de l'ovocyte est remplacé par le noyau d'une cellule adulte, par exemple une cellule de peau. On fait une stimulation électrique et ça marche. Maintenant, les cellules se mettent à se diviser et on peut obtenir un embryon, au moins jusqu'au stade blastocyste. Ça a été fait dans certaines espèces. Et à partir du stade blastocyste, on peut donc extraire les fameuses cellules souches et les cultiver comme pour un embryon normal. Mais il ne faut pas oublier que si cette voie de culture in vitro conduit au clonage thérapeutique, elle peut aussi être, si je puis dire, déviée. Et l'embryon pourrait théoriquement, parce que ce n'est pas si simple, ça a été fait donc chez la brebis, ça a été fait dans plusieurs espèces animales, peut donc être réimplanté dans l'utérus et à ce moment-là donner naissance à un être constitué. Bon, ça n'est pas réalisé pour l'instant, nous n'en sommes pas là, mais c'est une voie vers laquelle, dont certains rêvent, disons. Les cellules souches embryonnaires transplantées dans un organisme adulte échappent donc au contrôle par le système immunitaire et forment des tumeurs. Le clonage ne peut résoudre ce problème majeur, car les cellules souches obtenues par ce procédé sont elles aussi extraites d'embryons de 5 jours, qui n'ont rien appris, qui n'ont pas vécu le développement, qui ne savent pas se comporter dans un organisme adulte. Elles ne pourront donc être contrôlées par le système immunitaire d'un individu constitué. Ainsi, le clonage thérapeutique a été proposé pour un problème qui semble ne pas exister, qui est le rejet. Mais en revanche, le clonage thérapeutique ne peut pas résoudre le vrai problème qui est le contrôle. Car la problématique des cellules souches semble bien être le contrôle, non pas le rejet. La différence majeure entre cellules souches adultes et cellules souches embryonnaires est que les premières sont donc des cellules que l'organisme adulte sait maîtriser. Et puis c'est leur rôle, elles sont faites pour ça, elles sont prévues pour la réparation. Tandis que ce n'est pas le cas pour les cellules embryonnaires. En raison du risque de cancer, comme je l'ai déjà mentionné, aucun essai de thérapie cellulaire utilisant chez l'homme les cellules souches embryonnaires n'a été rapporté à l'heure actuelle. Il est même intéressant de remarquer que le pionnier de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, Thomson, qui en 98 témoignait devant le Sénat américain que ces cellules allaient guérir toutes les maladies, l'Alzheimer, le Parkinson, etc., il ne croit plus maintenant en leur utilisation thérapeutique. Et dans un congrès qui a eu lieu les 9 et 10 juin 2002, un congrès très officiel organisé par les instituts nationaux de la santé américaine, Thomson déclarait que dans la prochaine décennie, donc relativement peu d'essais cliniques en thérapie cellulaire seront faits avec des cellules souches embryonnaires humaines en raison de considérations de sécurité et de possibles réactions immunitaires. On peut prévoir, dit-il, que ces cellules souches auront un plus grand impact sur la connaissance de l'origine des maladies que sur leur traitement. Alors évidemment, ça a donc été publié, on le trouve sur un site internet des instituts nationaux de la santé américains, c'est donc parfaitement disponible, ce texte est parfaitement disponible. Alors évidemment, quand on dit maintenant que ces cellules ne permettront pas de guérir, mais qu'elles permettront de mieux connaître l'origine de maladies, c'est pas sur cet argument que l'on aurait pu mobiliser, comme on l'a fait, les associations de malades dont vous voyez ici une manifestation devant le Capitole, des paraplégiques qui se suspendent à un filin au-dessus de leur fauteuil. Ça n'aurait pas suffi. En revanche, les cellules souches adultes semblent donner des résultats intéressants dans les cas suivants. L'infarctus du myocarde, les blessures cutanées, la cécité, l'ostéogénèse imparfaite, la maladie de Parkinson, les lésions de la moelle épinière. Cela étant, il faut noter que dans tous ces cas rapportés jusqu'à présent, il s'agit de transplantation de cellules souches adultes autologues fournies par le patient lui-même. Donc on n'a pas été confronté à des problèmes de transplantation de cellules souches hétérologues. En conclusion, que peut-on dire? Qu'à l'heure actuelle, seules les cellules souches adultes peuvent être utilisées pour la thérapie cellulaire. Ce sont les seules que l'organisme adulte sache contrôler. Mais cette science est encore en enfance. En particulier, les lois de transplantation des cellules souches adultes doivent faire l'objet d'études approfondies afin de garantir une utilisation thérapeutique sans risque pour le patient. C'est particulièrement vrai si l'on veut utiliser le sang du cordon ombilical qui contient les cellules souches du bébé. Alors à ce propos, je voudrais dire deux choses. Il y a deux façons, on fait actuellement, on en parle beaucoup, il existe des banques de sang du cordon ombilical. Les unes sont des banques... Les unes sont des banques privées, c'est-à-dire que lorsque le bébé naît, on lui met de côté un petit flacon que l'on va congeler et qui contient ses cellules souches pour le cas où 40 ans plus tard, il soit malade et en ait besoin. On peut s'interroger d'ailleurs sur le bien fondé de cette vue. Mais il y a aussi, plus intéressant, des banques de sang ombilical du cordon qui pourraient fonctionner comme les banques de cellules souches hématopoïétiques. C'est une souche qui forme des globules à l'heure actuelle et qui pourrait être utilisée par tout un chacun. Mais à ce moment-là, il est nécessaire d'en connaître de façon approfondie les lois de transplantation. Et là, toute une étude reste à faire. J'ai montré un des mécanismes, mais il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Et si l'on ne veut pas connaître de soucis, faire prendre des risques aux patients, car on a vu qu'il y a des liens étroits entre les cellules souches et le développement des cancers, eh bien, il faut absolument poursuivre cette étude. Quant aux cellules souches embryonnaires, nous l'avons vu, même le pionnier Thomson ne cache pas qu'elles ne pourront vraisemblablement jamais être utilisées pour traiter des patients. C'est leur jeunesse qui les rend incontrôlables. Ces cellules n'ont rien appris. Elles doivent apprendre quelque chose au cours du développement. Elles ne peuvent pas être contrôlées par un organisme constitué où elles se trouveraient transplantées. Curieusement, de par le monde, certains ne cessent malgré tout de prôner le développement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et le clonage. À cela, il y a deux raisons majeures. Alors l'argent, ça a toujours été un mobile puissant, et l'industrie des biotechnologies, une grande partie repose sur les cellules souches embryonnaires, évidemment, serait en difficulté. Cela étant, on peut quand même noter qu'actuellement, les cellules souches humaines embryonnaires sont utilisées pour tester des médicaments. Il y a une autre raison, et ça, c'est pour les pays qui n'ont pas cette industrie développée des biotechnologies, c'est l'idéologie. Et nous savons très bien, en particulier notre pays est très sensible, nous savons très bien que depuis, nous avons tous en mémoire la querelle entre Pasteur et Berthelot à propos de la génération spontanée. L'idéologie est une force importante. Donc l'embryon humain est actuellement disponible pour l'expérimentation. Nous le voyons ici au bout de la pipette qui contient du sérum nutritif qui donne cette coloration au vert de la pipette. On sait faire beaucoup de choses. On sait manipuler cet embryon. Mais pour autant, faut-il le faire? Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'en ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, il n'est pas nécessaire d'être croyant pour être prudent. Il suffit de croire en l'homme et en sa raison. Je vous remercie beaucoup.
Vous venez d'entendre Marie-Louise Labat, directrice de recherche au CNRS, qui prononçait une communication le 8 octobre 2007 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème « Cellules souches du mythe à la réalité ».